Chapitre 25. Il a tout détruit? Cela fait plusieurs fois qu'il répète la même question, comme si ce scénario était inconcevable. La disparition de Julian a fait grand bruit à l'époque, et la presse a relayé de nombreux détails. La voiture manquante, le portefeuille. Mais ça, cet acte de vandalisme, Becker n'en a jamais entendu parler. Il a saccagé ce que Vanessa avait créé, des années entières de travail. C'est pour ça qu'elle a annulé l'exposition en dernier moment. Grace acquiesce. Elle est assise en face de lui, les mains sur les genoux, voûtée au point que son menton touche presque sa poitrine. D'une main, elle se frotte la joue. « Mais pourquoi n'en a-t-elle pas parlé à Douglas, au moins ?» insiste Becker. « Elle se serait épargnée tellement de contrariétés, de dépenses inutiles. Le procès, les années de querelle. » « Douglas aurait voulu porter plainte, et Vanessa le savait, » dit Grace en secouant lentement la tête. « Il aurait voulu qu'elle fasse une déclaration auprès de son assurance. » Qu'elle demande une indemnisation, et pour elle, c'était hors de question. J'ai moi-même essayé de la convaincre. Vous pouvez me croire, mais elle avait peur. Elle s'interrompt et se recroqueville à nouveau. Peur ? Répète Becker. Mais de quoi ? De la police ? Elle avait peur qu'on l'accuse d'avoir voulu se venger ? Oh, oui, répond Grace avec prudence, et Becker note une pointe de méfiance dans son regard. De ça et de ce qu'il adviendrait de son île, son havre de paix, si les gens la soupçonnaient d'y avoir caché le corps de Julian. Mais au fond, je crois qu'elle était tout simplement dévastée, sous le choc. Elle n'était pas prête à faire face à ce qui s'était passé. C'était trop violent. Grace se resserre un peu de vin, et lorsqu'elle vide le reste de la bouteille dans le verre de Becker, celui-ci remarque qu'elle tremble. « Je suis désolé, » dit-il. « Je me doute que c'est un sujet de conversation difficile. Ça l'a transformé, » murmure Grace. « Ce qui s'est passé cet été-là, ça a bouleversé son rapport au monde. » Son regard se fixe sur la fenêtre. De l'autre côté de la baie, on distingue les phares d'une voiture sur la route côtière. « Après ce drame, elle n'a plus jamais été la même, » conclut Grace. L'espace d'une minute ou deux, ils sirotent leur verre en silence. Le cerveau de Becker tourne à plein régime. Parmi la myriade de questions qu'il se pose, il se demande notamment s'il doit garder pour lui ce que vient de lui confier Grace. Ce n'est pas comme s'il avait juré sur la Bible, après tout, si? Il a dit qu'il comprenait que Vanessa ne voulait pas que cette histoire soit rendue publique, mais il n'a rien promis. De toute façon, il faut être réaliste. Il ne peut décemment pas cacher cette information à son employeur. Grace, finit-il par lâcher, je comprends les inquiétudes de Vanessa. Mais je pense qu'il est de mon devoir de tenir Sébastien Lennox au courant de ce qui est arrivé à ses pièces. « Non !» proteste Grace avec véhémence. « On parle d'œuvres qui ont été détruites il y a 20 ans, bien avant que Fairburn hérite du patrimoine artistique de Vanessa. Cela ne regarde pas Lennox. Je vous en prie, Vanessa détesterait qu'on mette ainsi le nez dans son passé. Elle ne supporterait pas d'être à nouveau la cible des soupçons. Si vous avez une once de respect pour sa mémoire, « vous n'irez pas plus loin. » Becker est partagé. Vanessa serait effectivement révoltée par une telle révélation, mais ce saccage fait partie de son histoire. C'en est même un aspect fondamental qui, à coup sûr, a influencé la suite de sa carrière artistique. Il pense à Division 2 et à ses éléments délicats enfermés dans une boîte en verre protégée du monde. Du moins, pour quelques jours encore. « Vous vous souvenez des œuvres qui ont été détruites ?» la presse-t-il. « Est-ce que vous vous rappelez certains détails? À quoi ils ressemblaient, par exemple? S'agissait-il de vases, de bols, de sculptures ?»«
Je suis désolé, mais je ne me souviens pas très bien des céramiques. Des peintures, un peu mieux, mais les poteries, c'était un peu du pareil au même pour moi. »
Becker ressent une brusque poussée de colère. « Vous viviez en compagnie d'une artiste de génie, et vous n'aviez même pas la curiosité de vous intéresser à ce qu'elle faisait, » songe-t-il.
« Il faut avouer que les titres des œuvres n'aident pas beaucoup, » poursuit Grace. « Elle choisissait toujours des noms tellement vagues. Floraison, respiration. Pourquoi ne pas appeler un chat un chat? Je vais encore passer pour une ignorante, mais pourquoi l'espoir et violence et pas phare sur l'île de la tête de mouton? Pourquoi totem et pas Grace avec un oiseau ?»«
Totem ?» répète Becker. « Totem était un portrait de vous ?»
je tenais une statuette en bois représentant un petit oiseau,
acquiesce Grace avec une voix enrouée. Becker ne sait pas si c'est parce qu'il a trop bu ou parce que la lumière dans la cuisine est trop tamisée, mais il lui faut un moment avant de se rendre compte que Grace pleure. « Oh, Grace, je suis désolé. » Il tend la main au-dessus de la table et se met à lui tapoter maladroitement le poignet. Grace lui attrape le bout des doigts. Sans relâcher son étreinte, elle éponge ses larmes avec son t-shirt. Il reste assis ainsi un moment, face à face, main dans la main, jusqu'à ce que le portable de Becker émette une brève sonnerie, lui offrant une échappatoire bienvenue. « Désolé, » dit-il en consultant le message qu'il vient de recevoir. « C'est Elena. Elle est épuisée, elle va se coucher. » Becker consulte sa montre, sourcil froncé. Il est à peine 21h30.
« Tout va bien ?»
demande Grace entre deux reniflements. « Oui, c'est ma femme. »
« Il y a un problème? Vous avez l'air contrarié. »«
Ce n'est rien, » répond-il en s'efforçant de sourire. « Rien du tout. »
« Ça n'a pas l'air d'être rien, »
observe Grace. « Si, si, c'est juste que je m'inquiète. La grossesse, la situation à Fairburn qui est stressante en ce moment. »«
La situation à Fairburn? Vous voulez dire par rapport à moi?
Pardon? Ah non, rien à voir. » Il se rend compte qu'il est ivre. Pourquoi sinon se livrerait-il ainsi? Mais plutôt que de se reprendre, il continue à vider son sac. Quand j'ai rencontré Elena, elle était fiancée à Sébastien Lennox. Grace fronce les sourcils, et Becker se met à tripoter le bord de la nappe en rougissant.
Elle a changé d'avis, poursuit-il. Mais je n'y suis pour rien, s'empresse-t-il d'ajouter.
Et Grace esquisse un sourire.
Si, si, je vous jure, ce n'est pas comme si j'avais eu l'intention de la lui voler. D'ailleurs, je n'aurais jamais imaginé une seconde qu'elle pourrait le quitter pour moi. Sébastien est un excellent parti, alors que moi...
Votre Elena m'a surtout l'air de quelqu'un de très lucide. L'argent, la facilité, ce n'est pas pour tout le monde. Certaines personnes voient au-delà, et heureusement. Ça permet aux gens comme nous, aux charmes plus humbles, de tirer notre épingle du jeu.
Becker opine, un sourire idiot aux lèvres. Il se demande ce qu'elle a voulu dire. Les gens comme nous. Se comparent-elles à lui? S'imaginent-elles qu'ils ont quoi que ce soit en commun?
Et donc, ce Sébastien, reprend Grace, il veut désormais se débarrasser de vous.
À vrai dire, Sébastien s'est montré beaucoup plus compréhensif que je ne l'aurais été dans sa situation. Non, c'est surtout sa mère, le problème. Déjà qu'à la base, elle ne me portait pas dans son cœur. Pour elle, je suis un gueux. Mais désormais, elle me déteste. Et elle n'hésite pas à se montrer franchement désagréable.
Oh, Emmeline a toujours été désagréable,
réplique Grace en se levant de table.
Mais c'est vrai, s'exclame Becker. J'avais oublié que vous la connaissiez.
Et il s'apprête à se lever à son tour pour l'aider à débarrasser, mais Grace lui fait signe qu'elle n'a pas besoin de lui.
Quasiment pas,
précise-t-elle.
Emmeline est venue ici deux ou trois fois avec Douglas. Mais c'est à peine si elle m'a adressé la parole.
Becker n'a aucun mal à l'imaginer. Aux yeux de Lady Emmeline, Grace ne devait pas valoir beaucoup plus qu'une domestique. Il n'empêche, songe Becker à voix haute. Après le drame qu'elle a vécu, je devrais faire preuve d'un peu plus de compassion à son égard. Grace étouffe un petit ricanement.
Elle devrait plutôt s'estimer heureuse. Elle est enfin débarrassée de ce coureur de jupons qui l'a trompée effrontément pendant des décennies.
« Oui, mais ça a été un tel choc, » murmure Becker. « Et puis, ce n'est jamais évident de rajouter de la culpabilité au chagrin. »«
De la culpabilité ?»
répète Grace en se tournant vers lui.
« Comment ça ?»
À cause de son cerveau embrumé par l'alcool, il faut plusieurs secondes à Becker pour réaliser son erreur. Hélas, il est désormais trop tard pour faire marche arrière. De toute façon, il devine, en voyant l'expression sur le visage de Grace, que celle-ci a compris.
« Mon Dieu, c'est Emmeline qui lui a tiré dessus !» s'exclame-t-elle. « Incroyable !»
La famille a étouffé l'affaire, acquiesce Becker, décidément incapable de tenir sa langue. Tout le monde voulait la protéger après cet accident terrible. Elle avait déjà assez souffert comme ça.
« Incroyable !»
répète Grace en pliant et dépliant le torchon qu'elle a à la main.
« Cette femme aurait logé une balle entre les yeux d'un lapin à 100 mètres. »
Becker se redresse sur sa chaise.
« Pardon ?
Vous ne saviez pas qu'Emmeline était une tireuse exceptionnelle ? Le nombre de fois où je l'ai entendue se vanter qu'elle aurait pu être sélectionnée pour les Jeux Olympiques si les femmes étaient autorisées à concourir.
Becker repousse son verre de vin et se lève de sa chaise en titubant. Il a du mal à réfléchir. Grace vient-elle réellement de suggérer qu'Emmeline a pu abattre son mari de manière délibérée?
Je crois que je ferais mieux d'aller me coucher, balbutie-t-il.
Oh!
Fait Grace, visiblement déçue.
Je voulais vous montrer quelque chose, discuter d'un dernier point avec vous, avant que vous emportiez les carnets à Fairburn. Mais il faut que je sois certaine de pouvoir vous faire confiance.
Elle pose alors sur lui un regard implorant et ajoute
« Je peux vous faire confiance, monsieur Becker ?»
Elle allume le plafonnier et Becker se rassoit. Les yeux plissés à cause de la lumière vive, il regarde Grace sortir un carnet du carton dans lequel se trouvait le message que Vanessa a laissé à Julian.
« Comme vous l'aurez deviné, c'est là-dedans que je conserve tout ce que j'aurais préféré garder pour moi. Vous pouvez prendre les carnets, mais je vous demanderai de ne pas les exposer. Je vous en prie.
« Pour Vanessa, » ajoute-t-elle en lui tendant l'objet.
« Et pour moi. »
Si le carnet est identique à ceux qu'il a déjà lus, Becker constate que l'écriture de Vanessa a changé. De fluide et déliée, elle est devenue nerveuse et irrégulière. Sa main ne suit plus les lignes de la page, mais s'aventure un peu partout, griffonnant dans les coins, changeant brusquement de direction. De nombreux feuillets sont vierges, à l'exception de quelques traits de crayon épars et de quelques phrases à peine lisibles.
« Quand le cancer a récidivé, il a très vite métastasé, » explique Grace. « Il a commencé à lui ronger le cerveau. »
Elle se mord la lèvre et regarde Becker feuilleter le carnet.
« Vanessa souffrait de migraines abominables, »
poursuit-elle.
« Peu à peu, elle a perdu la vision de l'œil droit. Ça faisait déjà un moment qu'elle avait arrêté la poterie. Elle n'avait plus la force. Mais là, pour la première fois, elle n'était plus en mesure de peindre. Même dessiner était devenu compliqué. » Alors elle a commencé à devenir de moins en moins cohérente, que ce soit sur le papier ou dans la vie de tous les jours. Dans ce carnet, contrairement aux plus anciens, on a parfois l'impression qu'elle n'écrit pas pour elle, mais qu'elle s'adresse à quelqu'un d'autre. À Frances, parfois, ou à moi.
Becker se concentre pour tenter de déchiffrer les griffonnages. Certains passages ressemblent beaucoup à Vanessa. « J'ai besoin de substance, une substance littérale. » Une substance matérielle. Revenir au bois, à la pierre. D'autres moins. Où est-il? Où es-tu? Où suis-je? Où sommes-nous passés? D'autres encore sont insoutenables. Est-ce la lumière qui décline, ou est-ce que c'est moi? Et certains enfin respirent le désespoir. Il faut que tu m'aides, tu me dois bien ça. Vanessa a souligné la dernière phrase avec une telle insistance que la mine du crayon a traversé la page.
« Elle m'a supplié de l'aider, »
poursuit Grace.
« À partir d'un moment, c'est devenu une obsession. Toutes nos conversations tournaient autour de ce sujet. Chaque fois qu'elle m'adressait la parole, c'était pour me supplier. Et pour finir, j'ai cédé. J'ai fait ce qu'elle attendait de moi. »
Pendant quelques secondes, Becker reste muet. « Vous l'avez aidé ?» dit-il enfin. Un frisson glacé lui parcourt la peau malgré la chaleur ambiante, et il a dans la gorge une boule aussi dure qu'un noyau de pêche.
« Je ne pense pas que les carnets renferment le moindre élément probant, »
répond Grace d'une voix douce.
« À un moment, Vanessa parle de morphine, mais elle ne mentionne pas mon nom, donc je ne vois pas comment je pourrais être inquiété. Et puis tout cela remonte à il y a si longtemps. Quand bien même l'information sortirait, je suis sûr qu'il est trop tard pour prouver quoi que ce soit. » On a été prudente. Je lui ai administré la dose un soir de tempête, si bien que l'ambulance n'a pu venir la récupérer que 3 jours plus tard.
Grace s'interrompt un instant pour regarder Becker dans le blanc des yeux, avant de reprendre.
Je n'ai pas plus peur de la justice que d'une éventuelle radiation. Cette fois, j'ai pris ma retraite pour de bon.
Elle soupire, la respiration tremblante.
Mais si ces carnets venaient à être rendus publics,
ajoute-t-elle.
Cela ouvrirait la porte à de nouvelles spéculations, à de nouvelles controverses. Les journalistes recommenceraient à fureter. Qu'est-ce que Vanessa pouvait haïr ces gens-là? La connaissant, elle détesterait voir ces charognards tourner autour de son cadavre.
Avant de quitter la pièce, Grace pose une main sur l'épaule de Becker.
Tout ce que j'ai fait, c'était pour la protéger. Et j'ai bien l'intention de continuer. »
Becker reste assis seul dans la cuisine, un long moment, à essayer de faire du tri dans tout ce qu'il vient d'apprendre, que ce soit au sujet de Julian, d'Emmeline, ou de ce que Grace a fait pour Vanessa. Non, de ce qu'elle a fait à Vanessa. Mais son esprit est embrumé, et il a beaucoup de mal à démêler les chevaux de ses pensées. Chaque fois qu'il tire sur un fil, il a l'impression que le nœud se resserre. Finalement, il décide d'aller se coucher. D'un pas titubant, il traverse le salon obscur en tâchant de ne pas se cogner au meuble. Une fois dans la chambre, il s'assoit sur le lit, la tête entre les mains, et écoute le bruit des vagues, avec l'espoir que la pièce arrête enfin de tourner. Et maintenant? Et demain? Va-t-il dire la vérité à Grace? Va-t-il lui avouer que la boîte en verre de Division 2 est sur le point d'être ouverte, et que, si ça se trouve, c'est même déjà fait? Va-t-il lui annoncer que le dernier souffle de Vanessa s'est peut-être envolé? Une sonnerie stridente le tire du sommeil. Il a oublié de couper son réveil. Dans le noir, il se redresse et étouffe un gémissement. Il a l'impression d'avoir la tête dans un étau. D'une main, il fouille la table de chevet à la recherche de son portable, faisant tomber quelque chose au passage. Merde. Ce n'est pas son réveil, mais un appel WhatsApp. Elena.
Beck, tu m'entends?
La voix d'Elena est pleine de larmes et il y a un écho, comme si elle se trouvait dans une pièce vide. Oui, je t'entends, répond Becker. Qu'est-ce qui se passe?
Oh!
Elle se met à sangloter et Becker arrête de respirer. Elena, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Elena!
Il y a du sang. Je saigne.
Merde, mais tu es où? À Londres?
Non, à la maison, dans la salle de bain.
D'accord, d'accord, l'interrompt-il en s'efforçant de masquer la panique qui s'est emparée de lui. Est-ce que... il y a beaucoup de sang? Est-ce que ça pourrait simplement être du spotting?
Je ne crois pas.
La voix d'Elena n'est plus qu'un murmure. Appelle une ambulance, ordonne-t-il. Non, moi je vais appeler une ambulance. Et merde, non, je ne peux pas, je n'ai pas de réseau. Bon, toi tu appelles une ambulance. Moi j'appelle Sébastien pour lui dire de te rejoindre tout de suite. Sors de la salle de bain, Lena. Descends et déverrouille la porte d'entrée. Fais-le tout de suite, j'appelle Seb.
D'accord.
Acquiesce Elena avant d'émettre un bruit étrange, à mi-chemin entre le rire et le sanglot.
J'ai peur, Beck.
Les mains tremblantes, il ouvre son fil de conversation WhatsApp avec Sébastien et appuie sur l'icône téléphone en haut de l'écran. Une sonnerie. Deux. Trois. Il raccroche et recommence. La troisième fois, Sébastien finit par décrocher. Elena saigne. Il faut que tu l'aides. Annonce Becker en s'efforçant de ne pas crier, mais il a beaucoup de mal à dissimuler sa terreur. « Il faut que tu y ailles, vite! Ne me pose pas de questions, vas-y, je t'en supplie !»«
J'y vais !»
répond Sébastien.
« Je file !»
Becker a à peine raccroché qu'il se rappelle que la marée doit être en train de monter. Il s'habille en hâte, traverse le salon au pas de course et jette un œil à l'extérieur. L'eau commence tout juste à lécher la chaussée. Il faut au moins qu'il laisse un message à Grace, mais il n'arrive pas à mettre la main sur un morceau de papier. Il attrape une liasse de documents dans le carton que Grace a laissé ouvert. Des lettres, des cartes. Il ne peut décemment pas écrire là-dessus. Il finit par dénicher un reçu de carte bancaire dans son portefeuille. Alors qu'il rédige son message, son regard est attiré par un mot sur la lettre posée au sommet de la pile qu'il vient de sortir du carton. Division. Sans réfléchir, il s'en saisit, l'empoche et s'élance dans la nuit.